Radio Classique, les spécialistes.
Nous avons rendez-vous avec Emmanuel Poulain un instant pour parler des relations entre Israël et Arabie Saoudite, mais je le disais, le violoncelliste et notre ami Gauthier Capuçon, donc évidemment sur l'antenne de Radio Classique, qui est en direct dans ce studio ce matin après. Donc un week-end un peu chargé en Suisse avec des concerts et un certain nombre de concertos. Je sens, mon cher Gauthier, que ce qui vient d'être déclaré par Charles Berling vous touche, car nous nous sommes rencontrés par hasard il y a quelques jours dans un théâtre à Versailles totalement vide et fondamentalement, cette absence de public vous touchait profondément.
Elle nous touche, on a besoin du public, on a besoin d'être sur scène, c'est le propre de la musique, c'est le partage. Et c'est vrai que ces concerts qui ont repris timidement au mois de septembre, on s'est aperçu quand même qu'entre septembre et octobre, que ce soit dans les théâtres ou dans les salles de concert, à ma connaissance, il n'y a pas eu de cluster. En tout cas, on a un public extrêmement respectueux, un public statique, avec le port du masque et la distanciation. Donc voilà, c'est vrai que c'est extrêmement difficile.
Donc ce soir, vous attendez quelque chose pour le monde de la culture.
Oui, j'attends non seulement quelque chose, mais au moins une visibilité. C'est vrai que cette incertitude constante est assez insoutenable pour les artistes.
L'artiste que vous êtes a trouvé un chemin pendant l'été, qui est un chemin qui va se prolonger. De quoi s'agit-il ?
Alors c'est la suite, je suis très heureux de poursuivre cette aventure musicale et humaine Un été en France que j'ai lancée l'été dernier. Je suis très heureux de la poursuivre l'été prochain, toujours en compagnie de mes complices Jérôme Ducrot et Samuel Parent. Mais de penser à cette suite sans les jeunes, pour moi n'était pas possible. C'est vrai que cette crise, on parlait à l'instant des concerts qui sont annulés. Je suis extrêmement inquiet pour toute cette jeune génération d'artistes pour qui ça va être extrêmement difficile de remettre le pied à l'étrier, de revenir sur scène. Et on a lancé un appel à candidature hier, je dis on, parce que ce projet, je le poursuis avec le mécénat musical de la Société Générale, qui se retrouve aussi dans cette vision de l'aide à la jeunesse, aux jeunes artistes et à la diffusion de la musique classique dans des lieux où peut-être elle est moins accessible. Et donc on a lancé cet appel à candidature pour des jeunes entre 18 et 25 ans, tout simplement pour venir faire la première partie de tous ces concerts d'été. Voilà, pour moi, on a besoin de... Il faut qu'on puisse aider ces jeunes, et c'est une manière de leur donner un peu un tremplin, justement, pour revenir sur scène.
Partout en France ?
Partout en France, oui. Il y aura 12 concerts en France. Mm-hmm. Et donc, cet appel à candidature concerne tous les jeunes entre 18 et 25 ans qui sont détenteurs d'un diplôme de pôle supérieur. Mm-hmm. Et donc, ça concerne tous les instruments de l'orchestre, plus le piano et la voix.
Une question, ce sera la dernière. Est-ce que dans le répertoire du dernier album, il y a justement une évolution ? Je veux dire, est-ce que les jeunes de votre génération, car vous parlez des jeunes comme si vous étiez un vieillard comme moi, mais ce n'est absolument pas le cas. On a l'impression que les instrumentistes de votre génération sont sortis du registre unique de la musique classique, qui est quand même ce que vous aimez, ce que vous avez travaillé, ce que vous défendez. Et c'est plus simplement ça aujourd'hui.
Mais bien sûr que c'est notre registre, la musique classique avec un grand C qui englobe d'autres formes de musique, comme la musique baroque, la musique contemporaine, c'est la musique que l'on joue. Mais simplement, on est musicien. On l'espère en tout cas, on joue de la musique. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de jouer d'autres formes de musique. Et quand je vois tous ces jeunes, tous ces gamins qui sont venus à ces concerts d'été que j'ai donné l'été dernier pour la tournée Un été en France, voilà, ils venaient écouter 3 suites de Bach, des gamins à parterre, de gamins de 8 ans. Donc oui, ils aiment la musique, bien sûr. Il faut simplement les aider à les y amener.
Et c'est d'ailleurs le rôle de Radio Classique, et c'est le rôle que vous jouez aussi à Radio Classique, puisque l'émission donc est un véritable carton le week-end. Merci mon cher Gauthier, nous suivrons avec intérêt cette tournée. Nous allons parler de politique étrangère avec Emmanuel Faux, qui est un musicien d'une certaine manière lui aussi. Emmanuel, nous parlons. Bonne journée Gauthier,
merci
d'être venu
à tous
ce matin. Très tôt sur notre antenne, qui est aussi votre antenne. Il faut que nous revenions, mon cher Emmanuel, sur l'évolution de la situation diplomatique entre Israël et un certain nombre de puissances arabes importantes, notamment la plus importante d'entre elles, qui est donc l'Arabie Saoudite. Alors, il y a eu, évidemment, des normalisations ces derniers temps, mais là, nous nous interrogeons sur de véritables fiançailles entre l'État hébreu et l'Arabie Saoudite. Qu'en est-il exactement ?
Vous savez, Guillaume, que l'art de la diplomatie, ça passe souvent par des manœuvres souterraines qui peuvent déboucher sur des résultats spectaculaires. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer entre Israël et le royaume saoudien, avec comme dernier signe une rumeur insistante selon laquelle le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se serait rendu en secret dans le nord de l'Arabie saoudite pour y rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman. Le voyage aurait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, donc c'est vraiment récent. Et selon les médias israéliens, qui sont généralement bien informés sur ce genre d'affaires, le premier ministre Netanyahou était accompagné du chef du Mossad, des services extérieurs d'Israël, et les deux hommes ont retrouvé le prince héritier dans la ville saoudienne de Neom, qui est située à la frontière avec la Jordanie, où se trouvait aussi Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui faisait sa tournée d'adieu. Alors bien sûr, le chef de la diplomatie saoudienne a démenti toute rencontre de ce type, mais le contraire aurait été surprenant, vu que l'Arabie saoudite a refusé de suivre ses voisins comme Bahreïn ou les Émirats arabes unis, qui ont normalisé récemment leurs relations avec Israël. Le prince saoudien Ben Salman a même posé comme préalable à tout rapprochement avec l'État hébreu qu'il mette fin à l'occupation des territoires palestiniens de Gaza et de Cisjordanie, car les Palestiniens, ils sont évidemment furieux de ces nouveaux partenariats annoncés récemment, y compris par le Soudan, et ils accusent de trahison tous ces pays arabes qui ont franchi le pas.
Question, est-ce que cette normalisation peut se maintenir avec l'arrivée d'une nouvelle administration dominée donc par Anthony Blinken et Joe Biden ?
Ben ça, c'est une vraie question, parce que derrière ces accords de rapprochement, ben, il y a un homme qui a tout fait pour rompre l'isolement diplomatique d'Israël dans la région, et cet homme, c'est Donald Trump. Parce qu'à travers ces accords, l'idée du président sortant, c'était de constituer un bloc pour contrer l'Iran et ses alliés en Syrie ou au Liban, opposer, si vous voulez, à la République islamique chiite, une alliance sunnite qui serait adossée à l'État hébreu. Alors l'opération semble en bonne voie, surtout si ces manœuvres entre Riyad et Tel Aviv se confirment. Mais la prise de fonction de Joe Biden le 20 janvier prochain peut changer la donne, surtout si le nouveau président américain décide de renouer le dialogue avec Téhéran, d'alléger les sanctions prises à l'encontre du régime des Mollahs. La nouvelle administration démocrate continuera à couver Israël, et Joe Biden l'a même dit, ne redéménagera pas l'ambassade américaine de Jérusalem à Tel Aviv, mais le successeur de Donald Trump cherchera sans doute à rétablir une relation plus équilibrée avec les principaux acteurs du Moyen-Orient, et on sait depuis hier soir, Guillaume, que ce sera l'une des tâches, effectivement, d'Anthony Blinken, qui vient d'être nommé secrétaire d'État du futur président.
Signature Emmanuel Faux.